basis.
Friends, it is with happiness that I introduce to you Joy Mills.
Amis, c'est avec joie que je vous présente Joy Mills.
Joy, who served the causeless cause and the society, of course, in so many aspects.
Joy, qui a servi la cause sans cause de la théosophie dans de nombreux aspects.
But I would mention only that she is the director of the Theosophical School of Theosophy at Crotona since 1980.
Mais je ne mentionnerai simplement que le fait qu'elle est directrice de l'école de théosophie de Crotona depuis 1980.
There she goes on to encourage members to open the secret doctrine.
Là, elle encourage les membres à ouvrir la doctrine secrète.
And get inspiration by it.
Et à en recevoir l'inspiration.
And I take the freedom to greet all those who have been with her and studied with her the secret doctrine.
Et je prends la liberté de saluer tous ceux qui ont étudié la doctrine secrète avec elle.
Let us now be open, all of us, to listen to her interpretation of the secret doctrine from 1888 to 1988.
Soyons ouverts pour écouter sa conférence qui s'intitule Interpréter la doctrine secrète 1888-1988.
Thank you, Annalisa, one of our Crotona School graduates. In the index volume for the 1978 edition of The Secret Doctrine, that edition which was prepared by Boris de Zirkov and retaining the original pagination of the two volumes first published a century ago, some 20 pages are devoted to a listing of titles derived from or commenting on H.P. Blavatsky's classic work and the numerous subjects to which she referred. De Zirkov, in giving such a selected bibliography, stated in his prefatory note that an integral facet of spiritual growth is the development of the discriminative faculty, and that consequently the student who explores any of the titles listed, works either commentarial or interpretative in nature, should remember that while there are many approaches to the teachings themselves are of a unique nature and of a universal scope which remain unchanged, whatever the presentation.
Dans l'index de l'édition de 1978 de la doctrine secrète, celle préparée par Boris de Zirkov, qui conserve la pagination originale des deux volumes publiés en 1888, 20 pages environ sont consacrées à une liste de titres dérivés de l'œuvre principale d'HPB, où la commentant, et des nombreux sujets auxquels elle se réfère. Boris de Zirkov, en donnant une bibliographie choisie, déclare dans sa notice d'introduction que le développement du pouvoir de discernement est une facette intégrale de la croissance spirituelle. Et qu'en conséquence, l'étudiant qui explore l'un des titres répertoriés, ouvrage par nature de commentaire ou d'interprétation, doit se rappeler qu'alors qu'il y a de nombreuses approches des enseignements, ceux-ci sont d'une nature unique et de portée universelle qui demeurent inchangées, quelle qu'en soit la présentation.
Through the 100 years since the first appearance of these unique volumes, approaches to their study have been many indeed. Students of the esoteric philosophy have inevitably brought their own interpretations and understandings to the universal concepts and principles enunciated in the SD. Each generation of students has restated the ageless wisdom of the theosophical doctrine in its own language, the language of the times in which each generation has been nurtured. Some have sought to tailor the wisdom tradition to contemporary thought. while others would fit contemporary knowledge into the larger framework of the universal principles presented by HPB. Even those who have claimed to give no interpretation to the teachings, but to present them in their pristine condition, must recognize that all of us, at any time and in any place, are subject to the perspectives of understanding engendered by our culture and education. When HPB wrote her work a century ago, she was necessarily bound by the language available to her, as well as by her own understandings of the esoteric philosophy in which she had been trained. We must remember, too, that many of the ideas then being presented to the Western world in a Western language were being given in such a manner for the first time.
Durant la centaine d'années depuis la première apparition de ces volumes uniques, les approches pour les étudier ont été nombreuses en vérité. Les étudiants de la philosophie ésotérique ont inévitablement apporté leurs interprétations et leur compréhension des concepts et principes universels énoncés dans la doctrine secrète. Chaque génération d'étudiants a reformulé la sagesse sans âge de la doctrine théosophique dans son langage particulier, langage de l'époque dans laquelle chaque génération a été élevée. Certains ont pensé adapter la tradition sagesse à la pensée contemporaine, alors que d'autres adaptent la connaissance contemporaine dans le schéma plus vaste des principes universels présentés par Madame Blavatsky. Même ceux qui ont déclaré ne donner aucune interprétation des enseignements, qui disent les présenter dans leurs conditions originales, doivent reconnaître que chacun d'entre nous, en tout temps et en tout lieu, est sujet aux perspectives de la compréhension engendrée par notre culture et notre éducation. Lorsqu'HPB écrivit son œuvre il y a 100 ans, elle fut nécessairement liée par le langage à sa disposition, de même que par la compréhension de la philosophie ésotérique dans laquelle elle avait été préparée. On doit se rappeler également que de nombreuses idées, présentées alors au monde occidental dans un langage occidental, étaient présentées d'une telle manière pour la première fois.
Many terms which have since become commonplace to us were introduced a century ago to indicate concepts then quite unfamiliar to Western minds. Some years before the publication of the SD, in the course of that remarkable correspondence between A.P. Sinnott and HPB's own adept teachers, one of those teachers clearly stated, "Let us agree on terms. Our own terms are nearly untranslatable." Yet agreement on terms had not been established even by the time HPB was well launched on her major work.
De nombreux termes qui sont depuis devenus pour nous des lieux communs, y compris des mots qui ont trouvé leur chemin dans l'usage habituel de la langue anglaise, furent introduits il y a un siècle pour indiquer des concepts alors inhabituels au mental occidental. Quelques années avant la publication de la doctrine secrète, au cours de cette remarquable correspondance entre A.P. Sinnott et les maîtres de HPB, l'un des maîtres déclara nettement « Entendons-nous sur les mots. Nos mots sont presque intraduisibles. » Cependant, l'entente sur les mots n'était pas encore faite, même à l'époque où HPB était en plein dans la rédaction de la doctrine secrète.
The earliest commentaries on the secret doctrine speak to the problem of understanding the terminology in which HPB clothed the fundamental principles of the wisdom religion, as she frequently called the esoteric tradition. Mrs. Annie Besant, for example, in her famous review of the two volumes published in the April 25, 1889 issue of the Pall Mall Gazette, spoke frankly of the need for a reader of HPB's work to acquire a certain mental position, since obviously the work dealt with ideas unfamiliar and seemingly alien to the Western mind. Describing that the opening section of Volume 1 as a metaphysical treatise wherein the Hindu brain, subtlest and most mystic of all mental organisms, expounding being and the beginnings of beings in a fashion no Western intellect can rival, Mrs. Besant added,
les premiers commentaires sur la doctrine secrète parlent du problème de compréhension de la terminologie, de laquelle HPB revêtit les principes fondamentaux de la religion sagesse, ainsi qu'elle appelait fréquemment la tradition ésotérique. Madame Annie Besant, par exemple, dans sa fameuse critique des deux volumes, parue le 25 avril 1889 dans le Pall Mall Gazette, parla franchement du besoin pour le lecteur du livre d'HPB d'acquérir une certaine position mentale, puisque le travail traitait de toute évidence d'idées non familières et semblant étrangères au mental occidental. Décrivant cette section d'ouverture du premier volume comme un traité métaphysique dans lequel le cerveau hindou le plus subtil et le plus mystique de tous les organismes ayant un mental expose l'être et le commencement des êtres d'une façon inégalée par l'intellect occidental. Madame Besant ajouta,
as regards the metaphysics, there is a feeling of the breakdown of language, the contradictions in which the mind is involved when it strives to grasp the ever elusive ultimates of being. However flexible and subtle its shades of meaning, Sanskrit may be, our Occidental tongues at least stumble into maddening confusion amid the shadowy forms and no forms of the thing in itself. And when it comes to symbolizing existence as a boundless circle, using a word that implies limitation and is empty of meaning without it, what can one do save admit that we have passed out of the region in which language is useful as conveying concepts, and that before the mystery of existence, silence is more reverent than self-contradictory speech.
Alors, citation de Madame Besant. Quant à la métaphysique, là aussi on a l'impression d'un décousu dans la rédaction, des contradictions dans lesquelles l'esprit est engagé lorsqu'il s'évertue à saisir les tenants et aboutissants, toujours fuyant de l'être. Quelque flexible et subtil dans ses nuances que puisse être le sanskrit, nos langues occidentales, du moins, se heurtent à une confusion déroutante au milieu des formes ombreuses et des non-formes de la chose en elle-même. Et lorsqu'il vient à symboliser l'existence comme un cercle sans limite, employant un terme qui implique une limitation et qui est vide de sens sans elle, c'est-à-dire avec l'absence de limitation, que peut-on faire sinon admettre que nous sommes sortis de la région dans laquelle le langage est utile pour véhiculer les concepts, et que devant le mystère de l'existence, le silence est plus respectueux que des paroles contradictoires.
Students through the years since HPB's day, eager to understand the lofty principles of being and existence, have not remained silent, as we well know, nor are future generations of students likely to do so. Since every man speaks the language of his time, drawing his metaphors of meaning from the world of knowledge available to him, interpretation and commentary will continue to be expounded. And we should applaud every sincere effort to express individual understanding, for every statement freshly minted from reflective insight or from the coin of advancing knowledge will reveal new facets of meaning and lead us onward in our search for full understanding of those magnificent principles whose complete comprehension may never be possible to the limited mind.
Depuis l'époque d'HPB, les étudiants pleins d'ardeur pour comprendre les principes élevés de l'être et de l'existence ne sont pas restés silencieux, comme nous le savons tous. Et il en va de même pour les générations futures d'étudiants. Puisque chaque homme parle le langage de son temps, tirant ses métaphores du monde de la connaissance qu'il a à sa disposition, les interprétations et les commentaires continueront à être exposés. Et nous devons applaudir chaque effort sincère qui exprime une compréhension individuelle, parce que chaque déclaration nouvellement donnée à partir de réflexions profondes ou à partir d'un savoir avancé, révélera de nouveaux aspects et nous mènera plus avant dans notre recherche d'une compréhension totale de ces principes magnifiques dont l'appréhension complète peut n'être jamais possible pour le mental limité.
It would be both impractical and imprudent to attempt to list every commentarial or interpretative work that has been produced to elucidate the doctrines and principles set forth in the SD since its publication. Even were it desirable to attempt such a task, one would inevitably omit some work of importance. In actuality, every book published within the Theosophical movement since 1888, and many without the Theosophical movement, owes something, however much or little, to the principles and ideas set forth by HPB. Without her pioneer work, without the secret doctrine, not only would our knowledge and understanding, partial and fragmentary as it may be diminished in scope and breadth, but the entire Theosophical movement itself would lack the unifying vision which arises from even a cursory reading of the three fundamental propositions on which the entire doctrine rests and from which it proceeds, forming the very heart of what today we call the Theosophical worldview.
Il serait à la fois impraticable et imprudent de tenter de faire la liste de chaque œuvre traitant de commentaires et d'interprétations, et qui fut produite en vue d'élucider les doctrines et principes avancés dans la doctrine secrète depuis que ces volumes furent publiés il y a 100 ans. Et même s'il était désirable d'entreprendre une telle tâche, on omettrait inévitablement quelque ouvrage d'importance. En fait, tout livre publié au sein du mouvement théosophique depuis 1888 doit quelque chose, que ce soit peu ou prou, aux principes et idées exposés par H.P. Blavatsky. Sans son travail de pionnier, sans la doctrine secrète, notre connaissance et notre compréhension, partiales et fragmentaires, ainsi qu'elles peuvent l'être, seraient non seulement diminuées en étendue et en profondeur, mais tout le mouvement théosophique lui-même manquerait de cette vision unificatrice qui surgit d'une lecture même rapide des trois propositions fondamentales sur lesquelles la doctrine entière s'appuie et desquelles elle procède, formant le cœur même de ce qu'aujourd'hui nous appelons la perspective universelle théosophique.
Rather than attempting a listing of the commentaries and interpretative writings that have appeared in the past 100 years and which bear directly or indirectly on the elucidation of the SD, it may be more useful to note the general directions taken by students in opening out the meanings of the principles set forth in those volumes. In general, those directions may be summarized under three headings. First, the works that deal directly with explaining principles, concepts, doctrines expounded by HPB. Second, those writings that focus on one or another topic in the secret doctrine, either bringing together all the information available on that subject or relating the topic to contemporary thought. And third, writings that may be regarded as providing deeper insight through a new interpretation of the principles presented. Let us then look at these three directions in which commentarial and interpretative writings have moved since 1888.
Plutôt que d'établir une liste des écrits, de commentaires et d'interprétations qui ont vu le jour au cours des 100 dernières années et qui portent directement ou indirectement sur l'éclaircissement de la doctrine secrète, il pourrait être plus utile de relever les directions générales prises par les étudiants en développant les significations des principes énoncés dans ces volumes. D'une manière générale, ces directions peuvent être résumées sous trois têtes de chapitre. En premier, les ouvrages qui traitent directement de l'explication des principes, concepts et doctrines exprimés par HPB. Deuxièmement, ceux des écrits qui se concentrent sur un sujet quelconque trouvé dans la doctrine secrète, soit en rassemblant toutes les informations disponibles sur ce sujet ou reliant ce sujet à la pensée contemporaine. Et en troisième lieu, les écrits qui peuvent être considérés comme fournissant une vue plus profonde grâce à une nouvelle interprétation des principes présentés. Considérons maintenant ces trois directions dans lesquelles les écrits de commentaires et d'interprétation se sont développés depuis 1888.
First, of course, we must take into account the efforts of HPB herself during the final years of her life in helping those in her immediate circle to understand as much as possible both the teachings given and her basic aim in writing such a work. We have two invaluable sources of information regarding her own elucidation of many points in her commentaries on the stanzas on which she based her presentation. We have first the published question and answer discussions from the meetings held at the Blavatsky Lodge in London in 1889, discussions during which HPB answered several rather abstruse questions regarding the teachings she had given in commenting on the meaning of the stanzas. Meetings in January of 1889 dealt with questions that arose from a study of stanzas 1 and 2, while discussions in February and early March of that year continued the exploration through Shloka 6 of stanza 4. Unfortunately, the published material of direct discussions with HPB ends at that point, although there is some evidence that there were further meetings of the Blavatsky Lodge at which HPB was present and continued to answer questions. In any event, an invaluable source for understanding some significant points in the early part of Volume 1 is still available to the student as Transactions of the Blavatsky Lodge.
D'abord et tout naturellement, nous devons prendre en considération les efforts d'HPB elle-même au cours des dernières années de sa vie, en aidant ceux de son cercle immédiat à comprendre dans la mesure du possible à la fois les enseignements donnés et son but premier en écrivant cette sorte d'ouvrage. Nous avons deux sources inestimables d'informations en ce qui concerne sa manière d'élucider de nombreux points dans ses commentaires sur les stances sur lesquels elle appuya sa présentation. Nous avons d'abord la publication des discussions de questions-réponses à partir des réunions tenues à la Blavatsky Lodge à Londres en 1889. Discussions au cours desquelles HPB répondit à plusieurs questions plutôt abstruses concernant les enseignements qu'elle avait donnés dans le commentaire de la signification des stances. Les réunions de janvier 1889 traitent des questions qui surgissent d'une étude des stances 1 et 2, tandis que les discussions de février et de début mars de cette même année continuent l'exploration de la Shloka 6 de la stance 4. Malheureusement, les matériaux publiés en provenance des discussions directes avec HPB finissent là. Bien qu'il existe des témoignages qu'il y eut d'autres réunions de la Blavatsky Lodge auxquelles HPB fut présente et où elle continua à répondre à des questions. En tout cas, une source inestimable pour la compréhension de quelques points significatifs de la première partie du volume 1 est toujours disponible pour l'étudiant sous la forme des procès-verbaux des séances de la Blavatsky Lodge, en français « Entretien sur la doctrine secrète ».
The second rich source for understanding HPB's own recommendations for the study of the SD are the notes recorded by Commander Robert Bowen, who participated in the classes she held for her private pupils during the years 1888 to 1891. Notes which were, in fact, presented by Bowen to HPB for her approval and were dated 19th April 1891, scarcely 3 weeks before her death on 8th May. Bowen's comment in regard to his notes is well worth quoting. I have read over this rendering of her teaching to HPB, asking if I have got her aright. She called me a silly dumbskull to imagine anything could ever be put into words aright. But she smiled and nodded as well, and said I had really got it better than anyone else ever did, and better than she could do it herself.
La seconde source, également riche pour comprendre les recommandations personnelles d'HPB en vue de l'étude de la doctrine secrète, sont les notes consignées par écrit par le commandant Robert Bowen, qui participa aux classes qu'elle dirigea pour ses élèves particuliers au cours des années de 1888 à 1891, notes qui en fait furent présentées par Bowen à HPB en vue de son approbation et qui furent datées du 19 avril 1891, à peine 3 semaines avant sa mort le 8 mai. Le commentaire de Bowen en ce qui concerne ces notes mérite d'être cité. J'ai lu en entier à HPB le compte-rendu de son enseignement, lui demandant si je l'avais rendu correctement. Elle m'appela un sot pour m'imaginer que quelque chose puisse être mis en mots d'une manière exacte. Mais elle sourit et hocha la tête également et dit que j'avais saisi ce qu'elle avait dit bien mieux que n'importe qui d'autre eût pu le faire et bien mieux qu'elle-même eût pu le faire.
Basically, we may say that both the Bowen notes, since published as HPB on How to Study Theosophy and in other sources, and the Blavatsky Lodge discussions, focus on a clarification of the meaning of terms, concepts, words within the volumes, together with HPB's own ideas on how the student should proceed if he would gain an overall understanding of the work. One point in the Bowen notes should be particularly noted, for it indicates that HPB occasionally gave even English words a specialized meaning. For example, Bowen makes reference to her use of the very ordinary word world, which he says she used to mean man living in the personal nature, adding, this world will find in the 2 volumes of the SD all its utmost comprehension can grasp, but no more. But this was not to say, continued Bowen, that the disciple who is not living in the world cannot find any more in the book than the world finds. Certainly, when we use the word world in everyday conversation, we are not inclined to mean our own personal nature, but either the globe on which we live or the universe itself. Yet read in the light of Bowen's comments, many sentences in the SD in which that word appears could well be subject to a deeper than usual meaning. We should also be alert to Bowen's comment that HPB implied that others may find in these volumes knowledge which she herself did not possess. As Bowen stated, she is telling us without a doubt not to anchor ourselves to her as the final authority, nor to anyone else, but to depend altogether upon our own widening perceptions.
Fondamentalement, nous pouvons dire que ces deux sources, les comptes rendus de Bowen, depuis lors publiés sous le titre « Comment étudier la doctrine secrète selon Madame Blavatsky » et les discussions de la Blavatsky Lodge, se concentrent sur la clarification de la signification de termes, concepts, mots utilisés dans les volumes en même temps qu'elles donnent les idées personnelles d'HPB sur la façon dont l'étude doit procéder s'il veut obtenir une compréhension complète de l'œuvre. Dans les comptes rendus de Bowen, on doit noter un point tout particulièrement, car il montre qu'HPB, occasionnellement, donna un sens spécial même à des mots anglais. Par exemple, Bowen fait référence à l'usage qu'elle fait du terme très ordinaire « monde », dont, dit-il, elle se servit pour vouloir dire « l'homme vivant dans la nature personnelle », ajoutant « ce mot « monde » trouvera dans les 2 volumes de la doctrine secrète tout ce que sa compréhension ultime peut saisir, mais rien de plus. Mais cela ne voulait pas dire, continua Bowen, que le disciple qui ne vit pas dans le monde ne puisse pas trouver quelque chose de plus dans le livre que ce que le monde trouve. Il est certain que lorsque nous utilisions le terme « monde » dans nos conversations quotidiennes, nous ne sommes pas enclins à vouloir dire notre nature personnelle particulière, mais soit le globe sur lequel nous vivons, soit l'univers lui-même. Cependant, lu à la lumière des commentaires de Bowen, bien des phrases de la doctrine secrète dans lesquelles ce mot apparaît pourraient bien être soumises à une compréhension plus approfondie qu'à l'accoutumée. Nous devrions aussi être vigilants à ce commentaire de Bowen, soulignant qu'HPB supposait que d'autres pourraient trouver en ces volumes un savoir qu'elle-même ne possédait pas. Comme Bowen le disait, elle nous dit sans aucun doute de ne pas nous ancrer sur elle comme l'autorité ultime, non plus sur n'importe qui d'autre, mais de compter entièrement sur nos perceptions personnelles qui vont s'élargissant.
Two of her students appear to have done precisely what she suggested, depending on their own widening perceptions to understand the doctrine she had presented. HBB referred to their efforts in a fascinating article in her journal Lucifer for June 1890, under the title Mistaken Notions on the Secret Doctrine, since republished in the Collected Writings, Volume 12. In that article, HPB gave us all a clue to the work every earnest student should undertake. Does it not stand to reason, she wrote, that a work which compares several dozens of philosophies and over half a dozen of world religions, a work which has to unveil the roots with the greatest precautions, as it can only hint at the secret blossoms here and there, cannot be comprehended at a first reading, nor even after several, unless the reader elaborates for himself a system for it. That this can be done and is done is shown by the two students of the ES. They are now synthesizing the secret doctrine, and they do it in the most lucid and comprehensive way. No more than anyone else have they understood that work immediately after reading it. But they went to work in dead earnest. They indexed it for themselves, classifying the contents in two portions, the exoteric and the esoteric. And having achieved this preliminary labor, they now present the former portion to the readers at large, while storing the latter for their own practical instruction and benefit. Why should not every earnest theosophist do the same?
Parmi ses étudiants, deux paraissent avoir fait précisément ce qu'elle suggérait, compter sur leur perception particulière en cours d'extension pour comprendre la doctrine qu'elle avait présentée. HPB fait allusion à leurs efforts dans un fascinant article paru dans son magazine Lucifer en juin 1890 sous le titre « Notions erronées sur la doctrine secrète ». Dans cet article-là, HPB nous livre une indication pour le travail de tout honnête que tout honnête étudiant devrait entreprendre. Est-ce qu'il n'est pas évident qu'un travail qui met en comparaison plusieurs douzaines de philosophies et plus d'une demi-douzaine de religions à stature mondiale, un travail qui doit en dévoiler les racines avec les plus grandes précautions, parce qu'il ne peut que suggérer l'existence de leurs fleurs secrètes ici et là, ne peut pas être compris à première lecture, ni même non plus après plusieurs, à moins que le lecteur n'en élabore pour lui-même un système. Que ceci puisse être accompli et le soit est révélé par les deux étudiants de l'école ésotérique. Ils sont maintenant en train de faire une synthèse de la doctrine secrète, et ils la font de la manière la plus claire et compréhensive. Pas plus que personne d'autre, ils n'ont compris cette œuvre immédiatement après l'avoir lue. Mais ils se sont mis au travail tout à fait sérieusement. Ils l'ont répertorié pour eux-mêmes en classant le contenu en deux parties, l'exotérique et l'ésotérique. Et après avoir achevé ce travail préliminaire, ils présentent maintenant au public en général la première partie, tandis qu'ils conservent la dernière pour leur instruction et avantages pratiques personnels. Pourquoi tout théosophe sérieux ne ferait-il pas de même?
Under the title Theosophical Gleanings, the work of the two students to which HPB referred was published in Lucifer between March and September 1890. In 1978, the articles were published in booklet form under the same title by the Theosophical Publishing House of Wheaton. I'll cut out the rest.
Sous le titre Theosophical Gleanings, glanes théosophiques, le travail de ces deux étudiants auxquels faisait référence HPB fut publié dans Lucifer entre mars et septembre 1890. En 1978, les articles étaient publiés en opuscule sous le même titre par le TPH à Wheaton.
Before leaving this first category of the three directions taken by students and exploring the meanings to be found in these amazing volumes, there is one work that deserves special mention for its unique and helpful exposition of the doctrines of the esoteric philosophy, and that is the book by the late Jeffrey Barborka, The Divine Plan, published in 1961 and constituting ever since one of the most valuable resource tools for the student desiring to gain a comprehensive grasp of the essential teachings set forth by HPB.
Avant de quitter la première catégorie de ces trois directions prises par les étudiants pour l'exploration des significations qui peuvent être trouvées dans ces étonnants volumes, il existe un travail qui mérite une mention spéciale pour l'interprétation unique et utile des doctrines de la philosophie ésotérique. C'est le livre écrit par feu Jeffrey Barborka, Le Plan Divin, publié en 1961 et constituant depuis lors l'un des plus précieux outils de travail pour l'étudiant désireux d'obtenir une compréhension étendue des enseignements essentiels énoncés par HPB.
I might interject that I am omitting some portions in the interest of time, but the full paper is available both in English and in French.
Joy dit qu'elle supprime certains passages, mais ces passages sont disponibles dans la version imprimée qui sera disponible après la conférence.
The second direction which students have taken in the exploration of the doctrine has been to focus on one or another area of specialized study, either to trace the many references to the subject throughout the two volumes, or to compare her exposition and the principles set forth with contemporary thought. A rich literature has resulted from the efforts of numerous students working along these two lines. Much of the work of the Theosophical Research Center in England, once so very active and now unhappily demised, must be recognized as following this direction, as have most, if not all, of the Blavatsky lectures given under the sponsorship of the English section. My own lecture in that series, delivered in 1978, may serve as an example of the direction many students have taken. For I used as theme for my own exploration that exciting and thought-provoking statement by HPB in the proem of Volume 1 concerning what she called the pivotal doctrine of the esoteric philosophy, that essential truth that our human journey must be self-directed, that we must win our immortality, and that we must recognize we are self-responsible beings.
La seconde direction que les étudiants ont prise dans l'exploration de la doctrine fut de se concentrer sur l'une ou l'autre des zones d'études spécialisées, soit de recouvrer les références nombreuses d'un tel sujet d'un bout à l'autre des deux volumes de l'œuvre de HPB, soit de comparer l'interprétation qu'elle en a donnée avec les principes exposés dans la pensée contemporaine. Une riche littérature fut la conséquence des efforts déployés par de nombreux étudiants qui ont travaillé suivant ces deux lignes. À peu près tout le travail du Centre de recherche théosophique d'Angleterre, autrefois tellement actif et maintenant malheureusement disparu, doit être reconnu comme ayant suivi cette direction, comme l'ont été la plupart, sinon toutes les Blavatsky Lectures données sous le parrainage de la section anglaise. Dans cette série, ma propre conférence, prononcée en 1978, peut servir d'exemple de la direction prise par de nombreux étudiants, car j'utilisais comme thème de mon exploration cette affirmation d'HPB, à la fois stimulante et irritante pour l'esprit, dans le proème du volume 1, relative à ce qu'elle nommait la doctrine pivot de la philosophie ésotérique. Cette vérité essentielle que notre voyage humain doit être auto-guidé, que nous devons gagner notre immortalité, et que nous devons reconnaître que nous sommes des êtres auto-responsables.
In addition to the many works of the late E.L. Gardner, who must be counted among HPB's dead earnest students, We may mention two recent publications that focus on specific themes, helping the student to recognize that he may probe ever more deeply into the concepts of the philosophy in order to gain as comprehensive an understanding as possible of the essential principles presented in the SD. In 1983, the Theosophical Publishing House of Wheaton combined into one volume a trio of small monographs originally resulting from the considerations of the science group of the Theosophical Research Center. Issued under the title This Dynamic Universe and edited by Corona True and Lester Smith, who happily is with us for this Congress, this work focuses on the force which we may call the dynamism of the universe, which HPB referred to as Fohat. Included also are articles and studies dealing with the concept of universal law. The second recent publication to which I would call attention as part of this genre of works dealing with specific areas of study is the invaluable compilation by Adam Warkup, one of our finest of contemporary students of HPB's writings. His small monograph, published in 1986 by the Theosophical Publishing House of London, presents a summary of the teachings on cyclic evolution, giving the earnest student an outstanding reference tool on that important subject.
En sus des nombreux ouvrages que Feu et L. Gardner, qui doit être compté parmi les étudiants tout à fait sérieux d'HPB, nous pouvons mentionner deux publications récentes qui se concentrent sur des thèmes particuliers, aidant l'étudiant à reconnaître qu'il peut examiner toujours plus profondément les idées générales de la philosophie afin d'obtenir une compréhension aussi complète que possible des principes essentiels présentés dans la doctrine secrète. En 1983, le TPH Wheaton associa en un seul volume un trio de petites monographies, résultat originel d'études du groupe de sciences du Centre de recherche théosophique. Publié sous le titre « Cet univers dynamique » et édité par Corona True et Lester Smith, cet ouvrage prend pour thème central la force que nous pouvons appeler le dynamisme de l'univers, et à laquelle HPB faisait référence comme Fohat. Étaient également compris les articles et études traitant du concept de la loi universelle. La récente et seconde publication sur laquelle je voudrais attirer l'attention en tant que partie de ce genre de travaux traitant de zones particulières d'études est la compilation inestimable faite par Adam Warkup, l'un de nos plus excellents parmi les étudiants contemporains, des écrits d'HPB. Sa petite monographie, publiée en 1986 par le TPH Londres, présente un résumé des enseignements sur l'évolution cyclique, donnant à l'étudiant sérieux un outil de travail hors pair sur cet important sujet.
Finally, the third direction taken, perhaps in some way the most exciting of all, in exploring new territory or opening up new modes of interpretation, is found in writings that reinterpret the remarkable stanzas on which HPB based her exposition of the cosmogonic and anthropogonic processes. She herself pointed to the fact that there are seven keys for understanding the fundamental principles of the esoteric philosophy, and clearly stated that one of those keys lay within man himself, in terms of his psychological and spiritual natures. Following that hint, and recognizing that the very structure of the universe is a psychic tissue, the fabric of consciousness, with man the chief test object, to use a contemporary scientific concept, two perceptive students presented a most remarkable reinterpretation of the stanzas of Jian in two volumes respectively titled Man, the Measure of All Things, and Man, Son of Man. The first of these books carries the names of the two authors, Sri Krishna Prem and Sri Madhava Ashish, while the second work, mainly written and completed after Prem's untimely death, carries the name of Ashish alone, although he gives full credit to Prem's early assistance in outlining some of the ideas contained in the works.
Enfin, la troisième direction prise peut-être d'une certaine manière la plus stimulante de toutes dans l'exploration de nouveaux territoires ou dans l'ouverture de nouveaux modes d'interprétation, est trouvée dans les écrits qui réinterprètent les stances remarquables sur lesquelles HPB a basé son exposition des processus cosmogoniques et anthropogoniques. Elle fit ressortir elle-même qu'il existe 7 clés pour comprendre les principes fondamentaux de la philosophie ésotérique, et affirma clairement que l'une de ces clés se trouvait en l'homme lui-même, selon les termes de ses natures psychologiques et spirituelles. En suivant cette suggestion et en reconnaissant que la structure même de l'univers est une étoffe psychique, le tissu de la conscience avec l'homme, objet d'épreuve principale, pour se servir d'une idée scientifique contemporaine, deux étudiants à la perception aiguisée présentèrent une très remarquable réinterprétation des stances de Dzian en 2 volumes respectivement intitulés « L'homme mesure de toute chose » et « L'homme, fils de l'homme ». Le premier de ces ouvrages porte les noms des 2 auteurs, Sri Krishna Prem et Sri Madhava Ashish, tandis que le second ouvrage, principalement écrit et terminé après la mort prématurée de Prem, porte le nom de Ashish seul, bien qu'il attribue l'entier crédit à l'originale assistance de Prem lorsqu'il exposa dans leurs idées générales quelques-unes des idées contenues dans l'ouvrage.
These two commentaries, written by 2 Englishmen who took the names of Sri Krishna Prem and Sri Madhava Ashish as followers of the great mystic Sri Yashoda Mai, are based on the view that, to use their own words, the ancient cosmogonies and creation myths were, in effect, affirmations of the divine nature of all things, giving significance to human life and validity to the moral and social codes formulated on the patterns of what they represented man to be, or rather, what he should become. The stanzas of Dzian represent such an affirmation.
Ces 2 commentaires, écrits par 2 Anglais qui prirent les noms de Sri Krishna Prem et Sri Madhava Ashish, en tant que disciples de la grande mystique Sri Yashoda Mai, sont basés sur la considération que, pour se servir de leurs propres mots, les anciennes cosmogonies et les mythes de la création étaient en effet des affirmations de la nature divine de toutes les choses, donnant signification à la vie humaine et force au code moral et social formulé sur les modèles de ce qu'il représentait l'homme à être, ou plutôt ce qu'il devrait devenir. Les stances de Dzian représentent une telle affirmation.
In these 2 books, we have a beautiful exposition, movingly and poetically written, of the profound truth that in man, in each one of us, all the elements of the universe have found or will find expression. That in us are met all the hierarchies of nature. Through us flow all the creative forces of the universe. And by means of us, the universe itself will become conscious, since man is truly the measure of all things, the paradigm for and the culmination of universal process, the one free agent in the universe whose essential task is to forward the cosmogonic evolution by himself achieving self-realization. As Prem and Ashish themselves stated the matter, if we have read aright the stanza's message, it is that this universe and all that it contains was not sent forth merely to be rejected. Seen in the truth, it is a shining being, the unity of God spread forth before him on the web of time and space. The study of it is the study of ourselves. He who experiences the whole is man. Cosmogony is man writ large upon the heavens.
Nous avons dans ces 2 ouvrages une très belle présentation, poétiquement écrite et d'une façon touchante, de la profonde vérité que dans l'homme, dans chacun d'entre nous, tous les éléments de l'univers ont trouvé leur expression ou la trouveront. Quand nous, on rencontre toutes les hiérarchies de la nature, qu'à travers nous coulent toutes les forces créatrices de l'univers, et qu'au moyen de nous, l'univers lui-même atteindra la conscience, puisque l'homme est en vérité la mesure de toute chose. Le paradigme du processus universel est sa culmination, le seul agent libre dans l'univers, dont la tâche essentielle est de faire avancer l'évolution cosmogonique en accomplissant lui-même l'autoréalisation. Comme Prem et Ashish eux-mêmes énoncèrent la chose, si nous avons correctement lu le message des stances, c'est que cet univers et tout ce qu'il contient ne fut pas simplement lancé pour être rejeté. Vu sous l'angle de la vérité, il est un être lumineux, l'unité de Dieu répandue devant lui sur la trame du temps et de l'espace. Son étude est l'étude de nous-mêmes. Celui qui fait l'expérience de la totalité est l'homme. La cosmogonie est l'homme écrit en grosses lettres sur les cieux.
Yes, to study the secret doctrine is truly to study ourselves, to experience ourselves in our own wholeness, to understand ourselves as self-conscious, self-responsible, and conscious creators, or rather, co-creators, with that one source from which all existence springs.
Oui, étudier la doctrine secrète, c'est véritablement nous étudier nous-mêmes, dans notre totalité, nous comprendre nous-mêmes en tant que créateurs, auto-responsables et conscients, ou plutôt co-créateurs avec cette source une d'où jaillit l'existence.
In conclusion, then, we may, as fellow students, comrades, companions on the sacred way that leads to wisdom, expand our own perceptions by means of an ever more fully awakened intellect and ever more deeply illumined heart. If we are faithful to the message of HPB's unique volumes, we must become students in dead earnest, making the doctrine our own, recognizing that it is forever secret, not so much because it is hidden, but because its very inwardness is inexpressible. Yet our knowing will always be expressed in our lives. The throbbing heartbeat of the real is matched perfectly within ourselves, and we, as microcosm, must mirror faithfully the cosmic creative scheme.
En conclusion, nous pouvons, comme condisciples, compagnons et camarades sur la voie sacrée qui conduit à la sagesse, développer nos perceptions individuelles au moyen d'un intellect toujours plus pleinement éveillé et d'un cœur toujours plus profondément illuminé. Si nous sommes fidèles aux messages contenus dans les volumes de caractère unique d'HPB, nous devons devenir des étudiants tout à fait sérieux, faisant de la doctrine notre propre doctrine, reconnaissant qu'elle est à jamais secrète, pas tant parce qu'elle est cachée, mais parce que son essence intime même est inexprimable. Cependant, ce que nous savons sera toujours exprimé dans notre vie. Le rythme du battement de cœur du réel est parfaitement harmonisé en nous, et nous, en tant que microcosme, devons refléter fidèlement le schéma créateur cosmique.
A Japanese sage, half a world away in space, and centuries removed in time, said, "Do not try to do what your predecessors did. Rather seek what they sought." Of interpretations and commentaries there are indeed many, representing the efforts of a century full of students. Yet enough has been given us to provide for centuries to come the basis for study, interpretation, and more importantly, the experience of a living wisdom. For however we and succeeding generations of students interpret the teachings, The essential message of the doctrine is now as it has always been. Live the life if you would come to the wisdom.
Un sage nippon, éloigné dans l'espace d'un demi-monde et déplacé dans le temps de plusieurs siècles, disait « N'essayez pas de faire ce que vos prédécesseurs ont fait. Cherchez plutôt ce qu'ils cherchaient. » Des interprétations et des commentaires, il en existe en vérité beaucoup. Ils représentent les efforts d'un siècle d'étudiants. Cependant, il nous a été donné suffisamment pour fournir pendant les siècles à venir la base d'études, d'interprétation et d'une manière bien plus importante, l'expérience d'une sagesse vivante. Car bien que nous, ainsi que les générations d'étudiants appelées à nous succéder, interprétions les enseignements, le message essentiel de la doctrine est maintenant comme il l'a toujours été. Vivez la vie si vous voulez arriver à la sagesse.
To study the secret doctrine in its fullness. To enter creatively into the encounter with its immortal truths is to come to the work with an open mind, a pure heart, an eager intellect, and a gradually unveiled spiritual perception, seeking what has been sought by the wise ones of all ages, a knowing beyond all language and all belief. It is finally to heed the injunction given by HPB herself to her students. Follow not me nor my path, but the path I show, which leads to the masters. For that path leads us also to the heart of the universe, the heart of our fellow men, the heart of life itself.
Étudier la doctrine secrète dans sa totalité, arriver créativement à la rencontre de ses vérités immortelles, c'est venir au travail avec un esprit ouvert, un cœur pur, un intellect ardent, et graduellement une perception spirituelle non voilée, cherchant ce qui fut cherché par les sages de tous les âges, une connaissance par-delà tout langage et toute croyance. C'est finalement considérer l'injonction donnée par HPB elle-même à ses étudiants. Ne vous conformez pas à ce que je fais ni à mon sentier, mais conformez-vous au sentier que je vous indique, celui qui conduit au maître. Ce sentier nous conduit également au cœur de l'univers, le cœur de nos compagnons, le cœur de la vie elle-même.
Merci, thank you.